milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. On parle éducation comme chaque vendredi. Aujourd'hui, faut-il punir les enfants à l'école? C'est une question aussi vieille que l'existence de l'école elle-même et qui devient de plus en plus tabou, déjà parce que les châtiments corporels sont interdits presque partout dans les règlements des systèmes éducatifs. La sanction est montrée comme une pratique honteuse. Et quand il s'agit de punitions, comme par exemple d'un devoir supplémentaire ou d'aller au coin dans la classe, cela semble dire que l'on a échoué dans une éducation positive, une éducation où l'élève apprendrait avec enthousiasme, respecterait les règles de la classe. Ça, c'est un peu le monde idéal. Revenons à la réalité. Du Burkina Faso à la Russie, du Canada au Japon, quelle politique éducative en matière de sanctions, quelles alternatives disciplinaires aussi pour l'enfant ou l'adolescent désobéissant? C'est à vous de nous répondre, les voisins et les voisines, si vous êtes enseignant ou ex-élève. Vous nous appelez surtout dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro WhatsApp pour nous téléphoner gratuitement. Avec nos invités, on va bien sûr en discuter. Vous allez pouvoir poser des questions à nos invités. Éric Préra, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes philosophe de l'éducation à l'Université de Lorraine et vous avez coordonné ce numéro de la Revue internationale d'éducation de Sèvres, La sanction en éducation, qui fait donc une vraie géographie des approches.
Absolument.
Comment sanctionner les élèves, et on va voir différents pays, différents cas. On sera en ligne avec Clarisse Naporne. On est déjà en ligne d'ailleurs avec Clarisse Naporne, bonjour.
Bonjour Madame Lassie et bonjour Monsieur Ferrand.
Bonjour.
Clarisse Naporne, vous êtes professeure de sciences de l'éducation à l'université d'Abomey-Calavi au Bénin et vous avez participé à la création de ce numéro. Vous nous parlerez de la sanction dans les établissements scolaires béninois. Beaucoup de choses ont évolué. Zacharia Soré est au Burkina Faso, bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Zacharia Soré, vous êtes sociologue de l'éducation à l'université Joseph Kizerbo et à l'université de Kudugu et vous avez réalisé une enquête dans la périphérie de Ouaga à Saba auprès de 200 écoles primaires. Vous nous direz quelle est la situation exacte. D'ailleurs, les enseignants ne sont pas toujours très enclins à parler des sanctions qu'ils administrent à leurs élèves. En fin d'émission, la chronique du psychologue Ibrahima Giroud, parents, enfants d'ici. Et d'ailleurs, une chronique comme chaque vendredi, mais qui est aussi disponible en podcast. Alors, je vous lis quelques commentaires. On a eu beaucoup de témoignages, de commentaires sur les réseaux sociaux sur cette question des sanctions. On voit bien d'ailleurs que ce sujet, s'il est souvent délaissé par les chercheurs parce que c'est pas le côté noble de la pédagogie, les gens qui sont dans la réalité de l'éducation sont intéressés par ces questions. Aki est à Yaoundé, il nous dit: dans le système éducatif africain, beaucoup partagent la thèse selon laquelle qui aime bien châtie bien. Or, la meilleure éducation de base devrait être axée sur des méthodes plus souples, principalement le dialogue. Blaise, à Bamako, au Mali: moi je déteste les punitions corporelles, elles ne sont pas efficaces, je préfère blâmer, faire asseoir l'enfant, lui parler. À 2 ans et demi, un enfant comprend bien certaines choses. Je trouve qu'avec ma fille, en tout cas, ça fonctionne très bien comme ça. Abdullah est à Ouagadougou, au Burkina. Moi, je suis allée à l'école coranique. Chaque jour, c'était l'enfer. Le maître te pose une question en tenant une chicotte. C'était le calvaire. Cette méthode n'est pas efficace. Elle est un frein pour l'intelligence et crée une sorte de nervosité, de frayeur. Et plus tard, on devient des têtes brûlées. Voilà, je cite le témoignage d'Abdullah. Abou est au Niger, il répond à Abdullah, il nous dit: ce type d'école coranique existe aussi au Soudan, moi j'y étais, j'ai vu plusieurs types de châtiments que mes collègues ont subis, parfois ils les attachaient avec des fers s'ils voulaient fuir, bref, c'est pas une manière efficace en effet pour enseigner le Coran. Jeff est à Bukavu, en RDC. Il est éducateur et il dit: à mon époque où le système éducatif était autoritaire, où l'enfant était considéré comme un tonneau vide, les éducateurs nous frappaient, nous ridiculisaient, nous apprenions avec peur et nous développions une attitude de méfiance et d'hypocrisie envers le maître. Vous continuez évidemment de nous contacter. Maintenant, on voudrait dialoguer de vive voix avec vous au 33 1 84 22 71 71. Peut-être un mot de commentaire, Eric Préra. Je vous ai vu prendre des notes et écouter avec beaucoup d'attention ces témoignages.
Oui, tout à fait. Je pense qu'on n'est même pas dans le cadre de la sanction, mais de la maltraitance dans les cas que vous évoquez. Et on doit effectivement refuser toute forme de maltraitance. Elle est à la fois une humiliation de l'enfant, mais je dirais une humiliation aussi du punisseur, du professeur. En se manifestant de telle manière, je crois que le professeur, l'éducateur s'humilie lui-même. Et donc, toute la question aujourd'hui, c'est d'essayer de réconcilier sanction et éducation, de montrer que la sanction n'est pas forcément un artefact, une parenthèse, mais qu'elle peut être un moment dynamique dans le travail éducatif.
Ouais. Et ce n'est pas non plus si simple hein, dans la réalité de l'enseignement, dans la réalité des systèmes éducatifs, dans la réalité du manque de moyens, des classes pléthoriques aussi, dans certains pays. Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. On accueille un autre auditeur Hubert qui est au Burkina Faso. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Hubert, vous êtes à Kongoussi, à près de 100 km de Ouagadougou. Vous, comment vous vivez cette question-là? Vous êtes enseignant?
Ah oui.
On vous écoute Hubert, vous êtes en direct.
Ok, bon, concernant l'enseignement corporel, bon, c'est un phénomène pas facile, mais bon. Ça dépend du niveau des
élèves. Hubert, je suis désolée, on a un petit problème de ligne téléphonique. On va essayer de vous rappeler parce que vous êtes entrecoupés. Je vais donner la parole à nos amis Zakaria Soré, puisque vous êtes universitaire et que vous publiez. Donc, vous avez mené une enquête dans la périphérie là, de Ouaga, hein, à Saaba, auprès de 200 écoles primaires, à la fois d'ailleurs des écoles publiques, des écoles privées. Qu'est-ce que vous reconnaissez ou pas des témoignages que j'ai lus, Zakaria Soré?
Oui, effectivement, nous avons mené avec mon collègue Moenga Paul-Marie une recherche dans la périphérie de Ouagadougou. Et effectivement, ce que vous lisez, c'est ce qui est ressorti donc, comme représentation du châtiment corporel dans l'éducation. Il y a une représentation positive autour donc du châtiment corporel. Beaucoup de personnes que nous avons rencontrées trouvent que le châtiment corporel, s'il est bien canalisé, est un élément, un facteur essentiel donc dans l'apprentissage des enfants. C'est là du fait que l'enfant reste toujours considéré comme un être insouciant, qui ne sait pas ce qu'il veut, et qu'il faut souvent donc le forcer à apprendre pour son propre bien.
Bien que les châtiments corporels soient tout à fait interdits au Burkina Faso.
Oui, bien que ce soit interdit, parce que et quand vous échangez donc avec les acteurs de l'éducation, que ce soit le personnel enseignant, que ce soit donc les encadrés, beaucoup pensent que l'interdiction est une interdiction pour faire plaisir donc à des organismes publics. Sinon, en réalité, pour beaucoup d'acteurs, il est très difficile donc d'arriver à éduquer les enfants sans faire intervenir de temps en temps la force. Et ici, le châtiment corporel est considéré que cet acte de force qui permet à l'enfant de mieux apprendre.
On va donner la parole à un autre auditeur. On essaye de rappeler Hubert qui est dans le même pays que vous, Zakaria Soré. Lionel est à Kinshasa en République démocratique du Congo. Bonjour Lionel.
Bonjour Erifi, bonjour à tous.
Soyez le bienvenu en direct chez 7 milliards de voisins. Vous avez enseigné, vous, 2 ans dans une école de base à des enfants d'à peu près 8 ans. Comment vous avez abordé la question de la sanction et de la discipline?
Oui, d'abord, au début, j'ai utilisé les punitions, surtout avec l'humiliation. Mais après, j'ai compris que ça freinait les apprentissages. Donc, pendant un certain moment, j'ai arrêté ce système de punitions. Bon, des punitions que moi, j'ai interprétées comme sanctions, comme salaire. Mais ça fonctionnait au moment où j'ai utilisé cette punition pour son efficacité, sa positivité, et pour que ça soit bénéfique, la sanction, je trouvais qu'elle devait être immédiate. au moment où l'enfant se comporte mal, mmh. il faut directement passer à la punition. Mais surtout, j'ai évité que cette punition soit vraiment menaçante pour les enfants. Et surtout, là, ça gâche la crédibilité de l'enseignant en même temps.
Vous voulez dire qu'elle ne crée pas, il faut pas que la sanction crée un climat de peur. Vous insistez absolument, sur l'immédiateté de la sanction. Quelle peut-elle être alors pour qu'elle soit efficace?
Oui, bon, moi je, tout à l'heure, comme je l'ai dit, j'ai évité d'abord qu'elle soit menaçante. Mais moi, j'ai sanctionné sur le champ quand l'enfant se comporte mal.
Oui, et mais par quoi?
Je vais d'abord passer par lui faire voir son horaire. Et directement, il n'y a pas sa punition. Et j'ai vu que ça fonctionnait, ça marchait.
Oui, mais comment? Mais, par quoi? Qu'est-ce que, vous punissez comment?
Non, par exemple, j'ai 4 enfants du groupe.
Oui.
Et au début, j'ai frappé aussi, mais ça n'a pas du tout fonctionné. Et j'ai répété des reproches en même temps au niveau de la direction, les parents qui réclamaient, et par rapport à ce que les enfants leur disaient.
Ouais.
Mais après, j'ai écarté seulement l'enfant du groupe. Un exercice ou une ambiance dans le groupe, l'enfant est exclu du groupe, il n'est pas participatif.
C'est ça, d'accord. Vous demandez à l'enfant d'aller, par exemple, au fond de la classe. Éric Préra, vous souhaitez intervenir. Oui. Merci Lionel, en tout cas, de ce témoignage.
Oui, merci. Je pense que déjà, il faut distinguer la contrainte et la violence. La contrainte a toute sa place dans le travail éducatif, mais la contrainte, ce n'est pas la violence. Mais pour revenir à ce que pouvait dire Zakaria, dans son enquête, on s'aperçoit que 60 ans après l'interdiction des châtiments corporels, donc ce n'est pas hier...
62, hein, l'interdiction, c'est ça,
1962. 62, voilà, c'est dans la foulée de l'indépendance. 23% seulement des enseignants sont favorables à cette interdiction. Ça veut dire que interdire juridiquement une pratique, si on ne montre pas des pratiques alternatives, alors dans ce cas-là, c'est relativement inutile, quoi. L'interdiction juridique n'est pas suffisante pour que les choses changent.
Est-ce qu'on a récupéré Lionel à Kinshasa? On essaye de le joindre, pardon, Hubert. Zakaria, justement, Sauré, vous avez été étonné de ces résultats, de ces enquêtes. Je crois que vous avez eu du mal déjà à obtenir une parole libre des enseignants sur la question des sanctions.
Non, au fond, nous ne sommes pas étonnés des résultats auxquels nous sommes aboutis. Ce qui est là, c'est qu'au départ, les enseignants sont un peu dans une certaine gêne de parler de châtiment corporel, lié au fait que juridiquement, c'est une pratique interdite. Donc, dès que vous abordez les gens au premier pas, ils sont un peu réticents, mais quand vous continuez dans le champ, petit à petit, ils sortent, ils vous disent l'inefficacité de l'interdiction et ils vous montrent l'importance, la contrainte dans les situations éducatives. Et peut-être le justificatif pour ceux qui militent pour l'interdiction des châtiments corporel à l'école est lié à ce que le procès Préra appelait la maltraitance.
Oui.
Les anciens prennent soin de faire la distinction entre le châtiment corporel dans le but éducatif et la maltraitance. Oh. Dans l'opinion, tout le monde reste convaincu que sans cette contrainte, sans ce minimum donc des sanctions, les enfants ne seraient pas disposés à aller dans l'apprentissage.
Oui, mais on est bien d'accord que pour notamment les institutions internationales, le châtiment corporel à l'école, c'est déjà de la maltraitance. Hein, et donc pour les instituteurs qui diraient c'est pas la même chose, c'est bien là oui. Tout le débat et toute la non-compréhension, tout le malentendu. Je voudrais vous lire le témoignage d'Hubert, puisqu'on n'arrive pas à le rappeler, la ligne téléphonique est mauvaise, mais il est professeur certifié dans le primaire à 110 km de Ouagadougou, à Kungusi, précisément d'ailleurs une zone où une zone tampon entre la capitale et la zone fortement impactée par les attaques djihadistes. Donc là aussi, ça ne facilite pas la paix à l'intérieur de l'école. Mais voici ce qu'il dit. Il dit « La chicotte, c'est la solution. Il y a trop de médiocrité de laisser aller parce que les élèves ne redoublent pas et donc ils n'ont pas le niveau. Les personnes ne s'occupent pas d'eux. La menace de la chicotte les fait travailler. J'ai demandé aux élèves s'ils voulaient que j'arrête la chicotte. Certains ont dit non et certains ont dit oui parce qu'ils ont peur d'aller à l'école. » Qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage d'Hubert, Zakaria Sauré?
Son témoignage est une sorte de photo de la réalité qu'on vit au Burkina. Peut-être, oui, je suis un peu étonné quand il a posé la question aux enfants et que les enfants disent qu'ils veulent la chicotte. Là, c'est quand même un résultat un peu étonnant.
Oui.
Parce que lors de nos enquêtes, nous avons aussi une anecdote où les enfants aimaient rappeler aux enseignants qu'il est interdit d'utiliser le châtiment corporel à l'école. Donc, ce résultat m'étonne. Mais de l'autre côté, je suis un peu, je ne suis pas surpris parce que nous, notre recherche a permis de savoir que les acteurs sont prêts et les acteurs même demandent que le châtiment corporel soit utilisé, sinon les enfants ne vont pas apprendre.
Mmh.
C'est le cas de certains parents d'élèves qui, quand ils rencontrent les enseignants, ils leur demandent, mais si les enfants ne veulent pas apprendre, n'hésitez pas à utiliser le fouet.
Bien que cette interdiction des châtiments corporels soit désormais connue de tous, et en particulier des enfants, Clarisse Naporne, au Bénin, quelle est la situation?
La situation au Bénin, elle évolue un peu. Il y a des gens qui sont toujours partisans pour qu'on utilise le châtiment corporel, mais il y en a, notamment les parents, qui souhaitent qu'il y ait plutôt un dialogue avec les enfants, qu'on leur explique ce qu'ils font mal, qu'on les accompagne, afin qu'ils ne recommencent plus, parce que les châtiments corporels ne règlent pas les problèmes que les enfants récidivent souvent. Ils sont davantage que suivis. Or, l'école n'a pas vraiment de dispositif pour le suivi.
On va essayer de vous rappeler, Clarisse, parce que la ligne aussi chez vous est mauvaise au Bénin et on en est navré pour le confort de nos auditeurs. Mais bien sûr, vous allez réintervenir. Clarisse Naporne à Abomey Calavi. Éric Préra, sans focaliser la discussion sur les châtiments corporels, parce que la sanction éducative, c'est, vous le disiez, c'est extrêmement large. Bien évidemment, les châtiments corporels relèvent de la maltraitance, même si certains enseignants jugent que c'est indispensable, mais souvent aussi parce qu'ils ne savent pas comment faire autrement. Et si même il est possible de faire autrement, qu'est-ce que vous avez appris, vous, à la lumière des différents articles dans la revue, où on voit le cas du Japon, le cas de la Russie? En réalité, les choses ne sont pas si claires que cela non plus sur la question de la sanction.
Non, tout à fait. On voit des choses qui se ressemblent et des choses très différentes. Par exemple, sur les châtiments corporels, on en parlait, mais on s'aperçoit que ça a été une pratique quasi universelle. On l'a rencontré au Japon, on l'a rencontré en France, on l'a rencontré en Russie, on l'a rencontré en Amérique du Nord. Donc là, on a une pratique qui est universelle. Il vaudrait mieux dire quasi universelle.
Qui s'est totalement achevée en France.
Qui s'est totalement achevée.
La deuxième moitié du XXe siècle,
oui,
grosso
modo. Oui, on va dire 1980. C'est ça qui est intéressant de voir, c'est que l'interdiction juridique en France, c'est 1803. C'est sans doute la première école à l'interdire. Mais l'interdiction effective dans la pratique, c'est 1970-1980. Ça veut dire qu'une interdiction juridique, ça ne suffit pas.
Oui.
Et qu'est-ce qui a permis que ça cesse vraiment dans les faits en France? C'est deux choses. D'une part, la contestation parentale, qui ne supportaient plus de voir leurs enfants frappés ou maltraités, et puis de voir qu'il y avait d'autres manières de faire. Toute la contribution des pédagogies nouvelles, c'est d'avoir montré qu'on pouvait éduquer sans frapper les enfants. Et je crois que c'est important, si on veut changer de cap, qu'il n'est pas seulement un interdit juridique, mais que l'on voit que l'on peut faire autrement.
Et en même temps, si on prend le cas du Canada, qui a été vraiment le chantre de la pédagogie positive, de la parole, du dialogue avec l'élève, entre le maître et l'élève, est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants ont une forme, en tout cas, d'amertume, ressentent une limite des pédagogies positives ou pas?
Oui, c'est le témoignage, effectivement, la contribution de Denis Geffray, l'Université Laval. La discipline positive, c'est une bonne chose dans l'espace de la famille. Et peut-être peut-on faire l'économie de toute forme de sanction ou de punition dans la famille. Mais l'école, c'est pas la famille. La famille, c'est de l'ordre de la communauté, avec des affects qui sont extrêmement forts. Il y a des règles, mais il y a beaucoup d'implicites. À l'école, ce qui est au cœur de la socialisation, c'est pas les affects, c'est la règle. Et donc, penser que l'on peut importer mécaniquement des choses qui marchent au niveau de l'éducation familiale, familiale au sein de l'espace scolaire est un peu naïf. Et effectivement, au Canada, on les voit faire marche arrière sur la discipline positive, qui est une bonne chose, encore une fois, dans le cadre de la famille, car les deux promotrices de la discipline positive travaillent dans le cadre de la famille.
Ça veut dire que finalement, appliquer l'éducation positive à l'école, au Canada, les enseignants parlent maintenant d'indiscipline chronique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une classe qui est tout le temps un peu agitée?
Oui, qui est bavarde. Le grand symptôme de l'indiscipline contemporaine, c'est le bavardage, c'est ça. Oui.
Donc c'est plus compliqué d'enseigner, c'est plus compliqué aussi pour les élèves d'apprendre.
Bien sûr. On voit le lien aujourd'hui que peut faire PISA avec
les enquêtes piètres
résultats de la France liés aux facteurs d'indiscipline.
Alors justement, la France, comment se situe la France par rapport à la sanction? Qu'est-ce qui est pratiqué? Quelle est la réalité?
Alors, la réalité, l'école française distingue des punitions scolaires et des sanctions disciplinaires. Les punitions scolaires, ce sont des réponses à des manquements mineurs qui peuvent être donnés par le surveillant, le professeur,
le chef d'établissement. Tu as oublié ton cahier, tu n'as pas fait tes devoirs.
Voilà. Donc, un devoir supplémentaire, une exclusion de classe... voilà ce qui relève une retenue. Et puis les sanctions disciplinaires, ce sont les réponses à des manquements graves. Et ça, seul le chef d'établissement ou le conseil de discipline peuvent les donner. Et ce sont l'exclusion temporaire d'établissement, l'exclusion définitive, le blâme, l'avertissement. Donc il y a deux catégories selon le degré de gravité des manquements.
Oui, en tout cas, c'est bien établi, bien porté à la connaissance des enseignants.
Absolument.
Ils savent ce qu'ils ont comme arsenal à disposition.
Oui, c'est très codifié. Vous savez, le conseil de discipline, on sait exactement qui doit y participer. Oui.
Clarisse Naporne, au Bénin, vous êtes bien en ligne avec nous, Clarisse Naporne? Non, on a un problème de téléphone, décidément. Parce que c'est Zakaria Soré, justement, je voulais vous poser la question. Le Burkina Faso, à l'heure actuelle, qui vit dans cette situation de conflit, où l'école est fortement impactée, perturbée, d'abord parce qu'il y a une menace aussi partielle sur le fonctionnement de l'école, du fait de la menace djihadiste. Est-ce que ça affecte l'agitation des élèves, des enseignants, puisqu'on parle de discipline à l'école?
Non, je ne pense pas que le contexte donc, de fermeture des écoles liées au péril terroriste impacte l'agitation des élèves à l'école. L'impact du problème sécuritaire sur la fermeture de nombreuses écoles, surtout donc dans les régions du Nord, du Sahel, un peu de l'Est, mais en termes de comportement des élèves dans les classes, il n'y a pas d'impact comme ça.
Mais ça veut dire beaucoup de déplacements de population, avec donc des zones où les classes sont surchargées.
Oui, tout à fait. Les classes pléthoriques, ce n'est pas lié également donc à ce problème sécuritaire. Il y a longtemps que ce problème est posé. Nous avons donc des classes pléthoriques, des classes où on retrouve beaucoup donc d'élèves, souvent une centaine donc d'élèves dans une même classe, ce qui fait que la pratique en matière donc de gestion de la classe diffère de ce qu'on voit en théorie, parce que le maître doit trouver la stratégie pour faire en sorte que les plus turbulents ne perturbent pas les enseignements, et faire en sorte que ceux qui sont disposés puissent donc continuer à apprendre. C'est dans cette logique que beaucoup de personnes, beaucoup d'enseignants surtout, pensent qu'il est très difficile de maintenir une situation bien calme tant qu'on n'utilise pas le fouet souvent.
C'est ça, c'est ce qu'ils disent tous, effectivement. Donnez-moi une autre recette qui fonctionne et je l'appliquerai. On va donner la parole à des auditeurs justement au 33 1 84 22 71. Alison nous appelle de Brazzaville au Congo. Bonjour Alison.
Bonjour.
Vous êtes enseignant?
Non, je suis informaticien.
Et donc, vous avez vécu des sanctions à l'école?
Oui, exactement, comme tout le monde.
Comme tout le monde. Alors, c'est-à-dire...
Bon, comme la plupart des gens. Comme...
Oui, vous avez raison. C'est-à-dire, mais là, je parlais de sanctions au sens large, justement.
D'accord. Les sanctions au sens large, je ne sais pas, je ne comprends pas bien.
Vous vouliez parler de la privation, parce que c'est ce que vous avez vécu?
Oui, exactement. Bon, la privation, je l'ai beaucoup plus vécue à la maison. Mais je pense que comme m'a dit l'intervenant de tout à l'heure, là, il y a certains modèles de châtiment qui ne répondent pas, qui correspondent pas à ce qu'on peut donner à l'école. Donc, je pense que si, par exemple, la privation qui marche bien à la maison, à l'école, je pense pas que ce soit pareil. Donc, et tout à l'heure, il y a l'intervenant qui vient de dire que dans certains pays, le manque de punition ou de châtiment et tout, on voit un peu des retombées que ça donne actuellement. Donc il y a maintenant un peu plus de laisser aller au niveau des enfants. Mais je pense que au niveau de l'école, la chicotte, en quelque sorte, bon, elle est censée continuer, quoi. Parce que sinon, ce sera un peu...
Vous parliez de la privation, mais ça veut dire quoi pour vous? Vous avez été, par exemple, privé de récréation, des choses comme ça?
Oui, privé de récréation, privé de repas et tout ça, voilà. Les autres peuvent aller jouer et puis vous êtes dans votre coin parce que vous ne pouvez pas sortir après la gaffe que vous avez commise.
Après la gaffe que vous avez commise, d'accord. Merci Alison en tout cas de nous avoir appelé. Vous continuez de nous téléphoner, on parle de la sanction en éducation. C'est vrai que ça reste encore assez pratiqué, privé de récréation par exemple.
Alors oui, en France...
Ça a du sens ou pas?
En France, ce qui existe d'un point de vue juridique, c'est la privation partielle de récréation, pas la privation totale. La privation peut être avoir sa pertinence éducative, c'est-à-dire suspendre un moment, une opportunité, un droit, un avantage, et parce que ça repose sur la frustration, en fait, la sanction, pas sur l'humiliation. Et donc, ça peut avoir sa pertinence des formes primatives. Évidemment, privé d'un repas, là, c'est autre chose. Mais suspendre momentanément une opportunité, une possibilité, un droit... peut avoir son intérêt. Alors, il y aurait d'autres formes, évidemment, comme les pratiques réparatoires qui seraient à explorer. Et c'est ce que proposent notamment les anglo-saxons dans les contributions du numéro présenté et qui me semble ouvrir des perspectives intéressantes qui pourraient être intégrées.
Juste pour qu'on termine sur la privation, je voudrais qu'on entende le témoignage qui a été posté par un voisin en Haïti. Étant donné le décalage horaire, c'est rare qu'on les ait en direct. Voici ce qu'il a posté hier, on l'écoute, c'est Célestin.
Ma mère et mon grand frère ont saisi un objet qui avait été à ma possession, et depuis lors, ça m'a laissé une cicatrice dans mon cœur durant tout le reste de ma vie. La génération d'aujourd'hui est une génération super connectée, très intelligente. Elle n'a pas besoin d'être torturée pour avoir la ligne qu'elle doit suivre. Il suffit de lui faire entièrement confiance, d'être toujours là pour elle et d'avoir un point de rencontre pour essayer de mettre les points sur les airs. Bon, c'est ce que je crois, moi.
La génération ultra connectée aujourd'hui, il suffit de lui faire entièrement confiance. Eh bien, justement, c'est aussi une réflexion que mène Bouna, qui est directeur d'école à Nouakchott. On écoute son témoignage.
Bonjour, je m'appelle Bouna Sow, je suis directeur d'une petite école privée à Nouakchott, en Mauritanie. Nous aimons les enfants, et parfois nous ne les frappons que lorsque nous n'en pouvons plus. Et moi, j'ai mis beaucoup de temps à me rendre compte que ce n'est pas efficace. Au contraire. Maintenant, j'ai travaillé ma bienveillance. Au lieu de réagir sur l'enfant, que ce soit ma propre bienveillance que j'essaye de cultiver, de rendre plus vaste pour que l'enfant s'y sente un peu mieux. Et même mes maîtresses, nous avons progressé. Je ne frappe plus. Et mes maîtresses aussi. Maintenant, mon chantier, c'est comment communiquer ça aux parents d'élèves. Certains parents qui se disent cultivés me répètent qu'ils peuvent écrire un papier pour me protéger en cas de blessure sur un enfant et que j'ai le droit de frapper leur enfant. Ce sont des personnes qui sont allées à l'école et qui me disent que c'est parce qu'on ne frappe plus les enfants qu'il y a de la délinquance. Donc merci de m'aider à me donner des tuyaux pour que j'arrive à communiquer mieux avec les parents de mes élèves.
Bouna, donc directeur d'école à Nouakchott en Mauritanie, pose une vraie question. Alors Clarisse Naporne, justement, vous êtes au Bénin, vous avez beaucoup travaillé sur la question des parents, hein, parce que l'éducation, c'est d'une part l'école, c'est la famille, et ce sont les élèves. Qu'est-ce que vous répondez à Bouna?
Alors, je pourrais lui répondre que c'est possible de faire autrement en créant une espèce d'école des parents. Il y a des établissements qui ont initié des rencontres parents-enseignants-élèves pour parler de ce qui ne va pas. et pour envisager ensemble des solutions. Et je pense que c'est un bon début pour des gens qui sont amenés à collaborer et à vivre ensemble, grosso modo.
Mais ça veut dire que dans ces cas-là, on évoque une alternative au châtiment corporel ensemble, les enseignants et les parents ?
Oui, les enseignants, les parents évoquent ensemble, on met les choses à plat. Et donc tout le monde se met d'accord sur ce qu'il est possible de faire pour ne pas frapper l'enfant, mais en même temps en expliquant aux enfants et aux parents ce qui ne va pas. Donc il y en a qui arrivent, enfin là c'est vraiment expérimental dans un établissement, mais je pense que c'est une bonne alternative éducative.
Mais l'alternative, les autres sanctions possibles dans ces cas-là qui sont déployées, parce que vous dites dans votre article tout de même qu'il y a une tendance à faire honte à l'enfant pour remplacer le châtiment corporel. Est-ce que finalement, ce n'est pas une autre sanction tout aussi nocive ?
Oui, faire honte à l'enfant est une sanction nocive.
Mais en quoi ça consiste, par exemple ?
À mettre tout le monde ensemble sur le fait de pouvoir se parler. Parce que je crois que la communication, ou le manque de communication aussi, aggrave les choses. Si on peut se parler, on peut arriver à dénouer, à démêler les tensions, à faire comprendre à un enfant que ce qu'il a fait n'est pas bien, pour qu'il puisse vivre avec les autres, mais pour qu'il puisse respecter les règles de vie établies pour être avec les autres à l'école, et en même temps faire comprendre aux parents que quand on est à l'école, on ne fait pas ce qu'on veut, mais qu'on est tenu de respecter les règles de vie communes.
Mais Éric Préra nous disait tout à l'heure, la sanction peut comporter une part de frustration, mais il ne doit pas y avoir d'humiliation. Est-ce que c'est précisément ce que font aujourd'hui les enseignants au Bénin, ou pas ? Est-ce qu'on a compris ça ?
Certains, pas tous. Une minorité a compris. Une minorité a compris et essaye de vraiment ne pas humilier les enfants, de prendre sur leur temps.
Mais donnez-nous des exemples précis, s'il vous plaît, Clarisse Naporn.
Alors, un exemple précis, un enfant, par exemple, vient à l'école avec une boisson, de l'alcool. Il distribue à ses camarades, mais on l'appelle, au lieu de le frapper, de le chicoter, de le renvoyer, on l'a appelé, on lui a expliqué ce que c'est l'alcool, où est-ce que tu l'as trouvé, etc. Il l'a dit, et on lui a dit les méfaits de l'alcool, le fait qu'il ne doit pas apporter l'alcool à l'école, etc. Et on lui a demandé à lui-même, non, qu'est-ce que tu penses qu'on va te faire ? Qu'est-ce que tu penses que tu mérites ? Parce que tu aurais pu rendre ivre tes camarades, etc. Et lui-même a souhaité balayer sa classe, faire le ménage pendant un mois.
Effectivement, c'est la réparation dont vous parliez, Éric Préra. Oui. Travaux d'intérêt général, par exemple ?
Oui, tout à fait, c'est le bienvenu. Toutes les formes, je dirais, de compensation...
Mais c'est pas une humiliation, ça, balayer la classe, par exemple, non ? Alors, ça va être présenté comme quelque chose d'utile ?
Oui, il y a des pratiques réparatoires qui peuvent être effectivement humiliantes, mais la plupart des pratiques réparatoires ne le sont pas. Il faut bien comprendre l'intérêt des pratiques réparatoires et pourquoi il faut les intégrer dans l'école. D'abord parce que quand on répare, on agit, on fait. On n'est pas dans une passivité, on est dans une activité. Et puis quand on répare aussi, dans le besoin de réparer, il y a un désir de se réparer soi-même. C'est ce qu'explique la psychanalyse notamment, Mélanie Klein. Et puis quand on répare quelque chose, on répare surtout à quelqu'un. Il y a une envie de se resocialiser. Et donc c'est une forme très positive qui doit être utilisée et qui doit être utilisée plus largement.
Ça, c'est-à-dire que ça donne une possibilité à l'enfant, effectivement, de redevenir quelqu'un d'autre,
voilà,
hein, de plus positif.
De se réhabiliter.
Je voudrais vous lire le message de Pacôme, qui est enseignant à N'Djamena au Tchad, qui dit « Moi, j'ai décidé d'arrêter la chicotte quand un collègue est décédé. Et à l'annonce de ce décès, les enfants de sa classe ont sauté de joie. » Donc on le voit bien quand même aujourd'hui, les enseignants se posent des questions sur finalement un état de haine, hein, entre les élèves et les enseignants. Zacharia Sauret, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Oui, les anciens se posent des questions justement parce que il y a des discours développés par les élèves pendant affaire de certains anciens qui utilisent à profusion la citate affaire de ces anciens là des méchants. Mais il y a aussi une dynamique juridique qui fait que beaucoup d'anciens commencent à se poser la question sur l'utilisation de la chicotte. Parce que, et, il y a un certain nombre de parents d'élèves qui n'hésitent pas aussi à dire aux anciens qu'il est interdit d'utiliser le châtiment. Et par conséquent, si un jour ils venaient à observer que leurs enfants étaient victimes donc, de coups de fouet, ils vont porter plainte contre des enseignants.
Est-ce que dans la réalité, il y a des plaintes auprès de l'administration de l'éducation nationale ou en justice de la part des parents? Est-ce qu'on voit des cas aujourd'hui au Burkina Faso? Des plaintes contre les châtiments corporels subis par leurs enfants?
Oui, on voit des cas. Ils sont encore très minoritaires, mais ils commencent à se développer. C'est toutes les plaintes auprès donc, des directeurs des écoles, mais aussi auprès des chefs des circonscriptions éducative. Il y a des parents qui n'hésitent pas à laisser plaindre. Et dans de telles situations, le plus souvent, se développe un dialogue, une tentative donc de réconciliation.
Zakaria Soré, on vous a perdu au téléphone. En tout cas, on voit bien qu'il y a une attitude quand même assez ambivalente à l'heure actuelle dans des pays d'Afrique subsaharienne où à la fois il y a des parents qui disent « faites ce que vous voulez de mon enfant, il faut en venir à bout » et puis d'autres qui jouent la carte de la protection de l'enfant et qui n'hésitent pas à menacer de porter plainte. On est en ligne avec Gaëtan qui nous appelle de Cotonou au Bénin. Bonjour Gaëtan.
Bonjour.
Gaëtan, alors vous, vous avez une position par rapport au châtiment corporel?
Oui, oui. Je suis un peu contre les châtiments corporels à l'école parce que j'ai vécu cela dans mon enfance. Il y a d'abord les parents à la maison et puisque les enseignants sont aussi les parents éventuellement. Donc, à l'école, on le vivait aussi.
Vous citez le cas d'une enseignante qui a eu des ennuis avec la justice, je crois.
Non, pas désormais avec la justice. En son temps, c'est mon grand frère qui a vécu la situation. Et il a été touché à l'œil droit, maladroitement par l'enseignante qui voulait lui assigner un coup. Et par malchance pour mon frère, il a reçu la lanière sur son œil droit. Donc, pour corriger la situation, mes parents ont voulu traduire l'enseignante en justice, mais ça a été étouffé. Finalement, mon frère a reçu des soins, mais il aurait pu laisser son œil droit. Donc, il continue de traîner les séquelles jusqu'à aujourd'hui.
Ah oui. Oui, donc on le voit bien aujourd'hui, tout de même, les parents cherchent à protéger leurs enfants. Est-ce que vous diriez finalement, Gaëtan, vous, aujourd'hui, que il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de bouger?
Oui, effectivement, parce que l'histoire que je viens de vous conter, ça, en 1993, et aujourd'hui, je sais que depuis 2015... notre pays, le Bénin, s'est doté d'une loi qui interdit cela dans les écoles. Donc, ça a fait qu'il y a une chute des statistiques. On a constaté ça au niveau des statistiques, que ça a chuté. Donc, on constate effectivement qu'à l'école, il y a des plaintes, il y a des actions en justice qui ont amené certains enseignants derrière les barreaux, ce qui a incité les gens à se corriger.
Merci beaucoup Gaëtan de nous avoir appelé. Luc nous envoie le message suivant en RDC. Il nous dit que la punition doit constituer une sanction éducative et non punitive. Par exemple, on peut demander à l'élève de nettoyer les vitres des fenêtres. Il apprend ainsi la propreté. On revient à ces propositions de sanctions réparation. Aujourd'hui, dans des pays où il y a un vrai manque de moyens, où il y a beaucoup d'élèves par classe, où les enseignants ne sont pas toujours bien formés, Zakaria Soré, quels seraient les messages à faire passer pour les enseignants pour trouver une alternative et proposer une vraie vision de la sanction dans l'éducation ?
Nous, ce qu'on avait remarqué, c'était une certaine innovation en matière de sanctions à l'école. Et cette innovation se perçoit à travers le développement de ce qu'ils appellent la surveillance. La surveillance consiste à retenir l'élève pendant 10-15 minutes, pendant que ses camarades sont à la récréation. Lui, il reste dans la classe, il ne sort pas.
Oui.
Il y a également donc la rétention pendant l'interclasse entre midi et 15h, l'enfant reste en classe, mais sous la surveillance de son enseignant. Donc, c'est un moment propice pour l'enseignant de lui donner un certain nombre de conseils, de lui montrer aussi qu'il est retenu parce qu'il a eu un comportement qui n'est pas celui qu'on veut observer donc, à l'école.
Éric Préra.
Oui, ce que je voulais dire à propos de l'histoire de ces enfants qui ont sauté de joie une fois que le professeur est décédé, c'est qu'un professeur frappeur ou un éducateur frappeur n'est jamais respecté. En fait, il est craint. Il ne faut pas confondre la crainte et le respect. Et ce qui fait qu'un professeur est respecté, c'est d'une part qu'il soit juste, qu'il soit bienveillant et qu'il soit compétent. Quand on fait réussir, quand on fait apprendre, on fait toujours autorité.
Clarisse Naporn, un mot de conclusion ?
Oui, ce que je voudrais dire, c'est qu'on n'explique pas assez aux enfants les règles de vie commune, ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils ne doivent pas faire. Je pense que dans l'enquête, moi, je me suis rendu compte qu'en début d'année, par exemple, on n'explique pas le règlement intérieur aux élèves, on ne lit pas avec eux et on ne leur dit pas ce qu'ils doivent faire. On les colle dans le cahier, c'est tout. Et les parents même, ils prennent le règlement, mais ils ne le lisent pas. C'est quand il y a une situation conflictuelle, qu'à ce moment-là, on a l'impression que tout le monde s'éveille.
Oui, et apprendre la règle par la sanction, ce n'est pas ce qu'il y a de plus pédagogique, effectivement.
Non, il faut donc lire pour que l'enfant sache à quoi il doit s'en tenir. Une espèce de contrat de vie pour l'année.
Eh bien, merci beaucoup à tous les trois pour toutes ces pistes de réflexion sur un vrai, vrai sujet, hein, la sanction en éducation. Merci à vous, Éric Préra, Clarisse Naporn et Zakaria Soré d'avoir été en ligne avec nous. Des articles à retrouver dans la Revue internationale d'éducation de Sèvres, la sanction en éducation, et également sur Internet. Merci beaucoup à vous, Éric Préra, d'être passé dans le studio des 7 milliards de voisins. Tout de suite, dans quelques secondes, la chronique d'Ibrahima Giroud, parents enfant d'ici et d'ailleurs.
On est plus le fils de son époque que le fils de son père.
Parents, enfants d'ici et d'ailleurs.
Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, c'est la chronique du psychologue Ibrahima Giroud. Bonjour Ibrahima.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes sénégalais, vous travaillez pour l'UNICEF à Dakar et vous nous proposez chaque semaine chez 7 milliards de voisins de répondre à des questions que se posent les familles sur la parentalité. Et d'ailleurs, on peut retrouver toutes vos chroniques sur les plateformes de téléchargement. Parents, enfants d'ici et d'ailleurs, c'est le titre de la chronique. Aujourd'hui, Ibrahima Giroud, vous nous parlez de l'éducation monoparentale à deux. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Emmanuel, combien de parents élèvent seuls, combien de femmes élèvent seuls leurs enfants parce que leurs époux ont émigré en Europe, aux États-Unis ou ailleurs ? Quand ces femmes habitent en milieu rural, elles bénéficient de la contribution de toute la communauté à l'éducation de leurs enfants. Et cela compense bien l'absence du papa. Et de toute façon, les oncles et tous les hommes de la communauté qui ont l'âge du papa s'appellent papa pour les enfants. Donc là-dessus, pas de problème. En revanche, quand la femme vit en milieu urbain, la réalité est telle que malgré l'argent qu'elle reçoit de son époux, elle se retrouve à travailler, à donner une bonne éducation à ses enfants, à les protéger des dangers de la ville. Tout ça, tout seul, et elle doit être le papa et la maman en même temps et tout le temps. Tout cela se passe dans le contexte en Afrique au sud du Sahara avec une assistance sociale minimale, voire quasiment inexistante. Et dans beaucoup de cas, ça se passe très mal pour la femme et pour ses enfants.
Et alors, quelles difficultés vous observez justement ?
La première difficulté, c'est que de fait, l'éducation devient monoparentale. Même si la famille est biparentale, l'éducation, elle, elle est de fait monoparentale. C'est comme si vous aviez un avion à qui il ne resterait qu'une seule aile et le commandant aurait bien du mal à garder le cap et à éviter le crash. Ensuite, la femme épuisée, ça donne parfois à des comportements assez violents avec les enfants, bien qu'elle soit la première à en souffrir en réalité. En consultation, quand elles arrivent, ces femmes, elles sont au bord des larmes, voire même en pleurs. Vous savez, quand vous gérez seul plusieurs enfants après le boulot, il est très, très facile de manquer de sérénité, d'être très irritable et de se sentir totalement dépassé et donc recourir facilement à des comportements violents avec les enfants.
Et en même temps, ces mêmes mamans, parce que ce sont comme souvent des femmes, il faut le dire, ces mêmes mamans peuvent être très permissives par moment, non, avec leurs enfants. Ça semble un peu paradoxal.
C'est vrai, ça paraît paradoxal, mais en fait, c'est un changement dans l'énergie de la maman. C'est comme avec un yo-yo, avec des hauts et des bas. Donc, dans les temps forts de la maman, elle peut gérer, laisser un peu de liberté aux enfants.
Donc, la chicotte ou les bonbons, c'est ça ?
Exactement ça. Et parfois, la chicotte, au mauvais moment, et pour de mauvaises raisons. Donc, quand elle est au bout de ses forces, elle peut frapper sans aucune raison ou laisser faire au moment où il aurait fallu intervenir. C'est pour ça que je souhaiterais attirer l'attention des employeurs sur le stress professionnel qui touche beaucoup les femmes et qui a des conséquences sur les enfants au final, puisque ces femmes vont rentrer chez elles et vont devoir s'occuper de leurs enfants.
En même temps, on pourrait se dire que bon, les employeurs se disent finalement, c'est de l'ordre de la vie privée. Hein. Alors, comment ces femmes vivent-elles tout ça ? Ça a l'air quand même assez explosif, ce que vous décrivez.
C'est une vraie détresse chez ces femmes. Les femmes que j'ai reçues en consultation se sentent mères indignes aux yeux de la société.
C'est ce qu'elles disent ?
C'est ce qu'elles disent, c'est ce qu'elles ressentent, c'est ce qu'elles perçoivent de la société. Donc, on les regarde comme des mamans indignes. Elles sont en détresse sans que personne n'entende ou ne perçoive le signal de SOS qu'elles ne cessent de donner. Il y a également les enfants qui, exposés de la sorte, risquent de ne pas développer leur plein potentiel et de rater leur entrée dans la vie.
Alors, qu'est-ce que les papas peuvent faire alors qu'ils sont si loin ?
Beaucoup de choses assez simples au final et assez pratiques. Premièrement, appeler régulièrement la famille. Il ne s'agit pas d'appeler tous les jours, mais il s'agit de créer des rendez-vous privilégiés de sorte que les enfants savent à tel moment papa va appeler. Ça, c'est très, très important.
Il y a aujourd'hui toute une gamme de technologies pour s'appeler, pour se voir. Donc finalement, il n'y a pas d'excuse sur ce plan-là.
Il n'y a pas d'excuse du tout. Ensuite, il faut que les parents qui sont à l'étranger soient à l'écoute des enfants. C'est quand vous appelez, il ne s'agit pas simplement d'appeler. Il faut écouter les enfants, bien comprendre comment est-ce qu'ils sont en train d'évoluer et bien maîtriser l'évolution de leurs besoins affectifs et rester connecté avec eux.
La question à méditer, Ibrahima Girou, pour les papas, voisins, émigrés.
Si vous pensez qu'envoyer de l'argent simplement suffit et que vous n'avez pas besoin d'appeler vos enfants, alors comment réagirez-vous plus tard quand vos enfants gagneront bien leur vie et qu'ils risqueraient de se passer de vous à leur tour ?
Merci beaucoup Ibrahima Girou. Toutes vos chroniques sont à retrouver sur les plateformes de téléchargement Parents, Enfants d'ici et d'ailleurs. Et voilà, et merci à toute l'équipe de 7 milliards de voisins qui prépare chaque jour cette émission. Sigrid Azeroual aujourd'hui, Delphine de Dianous, Romain Dubrac, Alice Ménard. Bien sûr, vous pouvez réécouter toutes nos émissions sur l'appli RFI Pure Radio à la rubrique émissions. Nous écouter en podcast, nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, bref. On reste ensemble toute la semaine en direct du lundi au vendredi. Et on se retrouve lundi, 7 milliards de voisins, la prison en France racontée par les familles de détenus.